France Culture. Vous écoutez France Culture. Tout de suite, la série musicale. Zoé Sfez.
Mi trascinavo adagio dentro il corpo umano, giù per le vene, verso il mio destino.
Je suis contre la popularité, c'est-à-dire je m'en fous vraiment d'être un chanteur populaire, non? Mais en vérité, j'ai eu la possibilité de mettre au-dedans d'une culture très fragile en quelque manière, du mysticisme.
Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me.
C'est un garçon qui ne se laisse intimider par rien. C'est une sorte de Jean Cocteau sicilien, en fait. C'est un garçon aigu, comme Jean Cocteau, intelligent, qui ne se laisse terroriser par personne, qui a certaines idées claires, qui essaie de les exprimer de manière plus ou moins floue, parce que ça l'amuse, parce que l'hermétisme l'amuse aussi.
Se penso a come ho speso male il mio tempo che non tornerà. Non ritornerà più.
France Culture.
La série musicale Zoé Sfez. Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre et toujours très heureuse de vous livrer tous les récits et surtout tous les portraits de la musique qui compte une heure de radio sur la musique et en musique. C'est la série musicale, bienvenue. L'homme que je vais vous présenter aujourd'hui est un soleil noir. Il fait chez certains, certaines, l'objet d'un véritable culte. Et c'est sans doute l'un des plus importants musiciens et auteurs du XXe et XXIe siècle. Si vous êtes français, américain, sud-américain, il y a pourtant de grandes chances que vous le connaissiez très peu, voire pas du tout. Sa musique fonctionne un peu comme un secret dans les pays où sa langue, l'italien, n'est pas parlée. C'est un peu comme un drapeau que vous choyez. Si vous croisez quelqu'un d'autre qui connaît son œuvre, tout de suite, vous vous reconnaissez. Et ça suffit parfois à fonder une amitié. Et en revanche, si, comme lui, vous êtes originaire de la botte, c'est-à-dire que vous êtes italien ou italienne, alors là, forcément, vous le connaissez. Vous l'appelez maestro, ce terme avec lequel on s'adresse aux grands chefs d'orchestre ou aux grands compositeurs. Vous avez probablement dansé sur ses tubes, puisque son album La Voce del Padrone reste encore aujourd'hui l'album italien le plus vendu de tous les temps dans la péninsule. Vous le trouvez dans les bandes originales des films de La Jeune Garde, Alice Rochebacher ou encore Luca Guadagnino. Si un chanteur méritait bien un prix Nobel de littérature, écrivait Rolling Stones en 2021, plus que Bob Dylan, c'était sans doute à lui qu'il fallait le remettre. Lui, c'est Franco Battiato, et aujourd'hui, il aurait eu 80 ans s'il ne nous avait quittés juste après le Covid, opérant un grand passage de la vie à la mort qu'il ne redoutait pas. Lui, qui toute sa vie fut un grand mystique, et s'interrogea sur le sens de ce passage sur Terre. Impossible en fait vraiment de définir un homme qui fut tout à la fois un pionnier de la musique électronique en Italie, un philosophe, un écrivain, un peintre, et qui réussit à devenir l'un des chanteurs les plus populaires de son pays en faisant danser toute l'Italie sur des chansons qui parlent de la musique soufie, de Proust, de Sainte Thérèse d'Avila, qui évoquent la méditation transcendantale autant que le fascisme, qui se réclament autant de Stockhausen, de John Cage que des chanteurs yéyé français. Et oui, ça fait beaucoup. Et pourtant, Battiato, c'est tout cela et bien plus encore. Sans doute pourrait-on, dans la place qu'il occupe dans la musique, le rapprocher d'un David Lynch au cinéma par exemple. Comme lui, il a pu, su rencontrer un un public très large, tout en abandonnant absolument jamais une recherche artistique fondamentalement intègre et exigeante, tout au long d'une carrière très longue et fertile. On trouve autant des morceaux de 25 minutes au synthétiseur que des tubes de new wave ou de rock progressif, que des ballades façon variété, des collages ou même des opéras. Parce qu'il faut comprendre l'italien pour le goûter et parce que vraiment, il le mérite. On va tenter de vous guider, de vous faire aimer celui qu'on surnomme en italien le peintre antique ou tout simplement il maestro dans un portrait ô combien non exhaustif mais profondément subjectif en deux parties dans la série musicale sur France Culture. Une vieille bretonne avec un chapeau et un parasol en papier de riz et en bambou. Capitaine courageux, passeur macédonien astucieux, jésuite euclidien, déguisé en bonze pour entrer à la cour des empereurs de la dynastie Ming. Je cherche un centre de gravité permanent qui ne me fasse jamais changer d'avis sur les choses, sur les gens. J'aurais besoin d'un centre de gravité permanent qui ne me fasse jamais changer d'avis sur les choses et sur les gens. Encore, encore et toujours. Centro di gravità permanente, sans doute l'un des rares titres de Franco Battiato que les Français connaissent peut-être, puisque quand il sort en 1982, il est tiré en France à 60 000 copies et il se vend. Ce texte, cette chanson, à la fois dansante, dans un clip qu'on vous invite vraiment à découvrir, si vous le pouvez, sur les internets. Et sans doute l'un des plus grands succès d'un Franco Battiato qui, dans les années 80, a opéré un grand tournant vers la pop. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que ce centre de gravité permanent duquel il parle? On est en 1982, l'Italie traverse un moment politique extrêmement difficile et il nous parle de centre de gravité permanente. En fait, c'est une allusion, c'est une citation de l'un des philosophes mystiques qui l'intéresse le plus. Il s'appelle Georges Gurdjieff. Cette phrase, c'est celle de Gurdjieff. On est dans une chanson qui est à la fois immédiatement, vous l'entendez, efficace, qui va énormément faire danser en Italie, mais même ailleurs, et qui pourtant s'appuie sur une lecture philosophique extrêmement dense, avec ces images extrêmement à la fois fortes et d'une certaine manière effectivement hermétiques des jésuites, des euclidiens. Il est question dans cette chanson qui va se vendre à des milliers et des milliers d'exemplaires. C'est du pur Franco Battiato, c'est cette rencontre entre une lecture du monde, une requête de vérité et une capacité à parler à un public extrêmement large qui caractérise ce Franco Battiato qui, quand il meurt, va être pleuré autant par toute la gauche, par la plupart des artistes, puisqu'il sera clairement l'un des plus influents en Italie, mais autant par Matteo Salvini, le leader d'extrême droite. C'est vous dire à quel point il occupe une place étrange, impossible finalement à cataloguer, à retranscrire dans un contexte, par exemple, français. Qui est-il, ce sudiste qui est né en réalité en Sicile, près de la ville d'Acireale, et qu'on baptisait le génie, le poète, le penseur antique, tout à commencé quand son père, un humble chauffeur de camion, qui d'ailleurs a participé à la grande tentative coloniale sous le fascisme de l'Afrique du Nord, lui offre une petite guitare dans les années 50. Il se met à imiter Elvis Presley avec sa petite guitare, toujours, finit par s'installer à Milan, où il suit des études, a rencontré toute une foule de gens dans un cabaret, notamment le musicien et le chanteur Giorgio Gaber, qui est une grande figure de la gauche, d'où effectivement cette grande ironie d'une certaine partie de la droite qui adule Battiato, notamment parce qu'il sera mystique, qu'il revendiquera l'influence des penseurs, notamment catholiques, mais évidemment pas que. Il se lance dans la protest-song, c'est-à-dire vraiment la chanson de gauche à Milan. Il a à peine une vingtaine d'années. Et finalement, après avoir passé quelques concerts, sorti quelques EP, avoir fait une première apparition à la télévision, il va s'engager à corps perdu dans la musique expérimentale et fondamentalement expérimentale. Ses trois premiers disques, que vous allez les découvrir, font de lui l'un des pionniers de la musique électro. C'est plus tard qu'il deviendra un chanteur dit populaire, sans jamais rien lâcher de son intégrité, comme il le racontait sur France Culture dans l'émission Le Rendez-vous. C'était en 2018.
En toute vérité, j'ai commencé à faire de la musique commerciale pour gagner de l'argent. Et j'ai mis au-dedans mes expériences, parce qu'après 10 ans de musique d'avant-garde, j'expérimentais vraiment tout le possible. Et après, je suis en quelque manière resté prisonnier. Mais pas pour la... Je suis contre la popularité, c'est-à-dire... Je m'en fous vraiment d'être un chanteur populaire, non? Mais en vérité, j'ai eu la possibilité de mettre au-dedans d'une culture très fragile, en quelque manière, du mysticisme, parce que j'ai composé beaucoup de chansons mystiques et qui sont vraiment la spine dorsale, on dit en français, de ma production. Quand je fais des concerts, la liturgie qui manque au Vatican, on la trouve dans la musique légère. C'est étrange, ça.
Cario Cinese, on est dans le premier album intégral que sort Franco Battiato, on est en 1972. Il le sort dans un tout petit label qui s'appelle Blabla. C'est un concept album inspiré très directement de la lecture d'Aldous Huxley, dans lequel évidemment vous connaissez, il met en scène une société dystopique où chaque individu est construit en laboratoire, et c'est une réflexion de Franco Battiato sur le fœtus et le moment où de la naissance à la mort, une espèce de souffle de vie souffle en nous. Qu'est-ce que véritablement cette vie, à quoi correspond-elle? On est sur un album qui essaye de faire le pont entre tout, entre la naissance et la mort, entre l'influence du rock progressif, de la musique légère, vous l'entendez ici, évocation de jazz manouk, mais surtout qui nous emmène jusqu'à la musique électronique, qui est à l'époque, en 72, profondément nouvelle. Il va baser quasiment tout son album sur le synthétiseur VCS3 et une batterie électronique, ce qui fait de cet album le premier album de chansons avec une instrumentation, on peut le dire, électronique, produite en Italie. Un album qui cite autant les grandes traversées spatiales que tentent les Américains, qui cite Bach, qui déjà nous permet en fait de nous plonger dans cette espèce de cosmogonie de Franco Battiato. Il y est question des œuvres de Nikite Saint-Phalle, en réalité d'une forme de vie qui déjà fait fi en fait de la forte présence du présent, puisque je vous rappelle qu'en 72, l'Italie est prise dans des grands mouvements politiques. Déjà, Franco Battiato, lui, se situe presque à côté, en dehors, presque au-dessus, veut tout nous dire de ce qu'est fondamentalement, et ça sera son obsession toute sa vie, l'expérience humaine.
Certo processo mentale, la voce è marmo e cemento, è vivo malgrado me stesso. Difficile attuare il controllo, attorno ai miei occhi c'è nebbia. I contorni si fanno imprecisi. Ho già scordato la mia dimensione e forze sconosciute strappano da me.
écoute toujours la même chanson, elle s'appelle Phénoménologie, c'est la quatrième chanson de cet album intitulé Fœtus. Ixiun égale A, Sen et X et Doué, c'est la formule mathématique que vous venez d'entendre répéter sur une petite guitare. Et c'est le fonctionnement, c'est la formule mathématique qui décrit le fonctionnement des oscillateurs harmoniques qui compose justement ce synthétiseur qu'il est un des premiers à utiliser. En même temps que lui, Pink Floyd font les mêmes expérimentations. Et d'ailleurs, ils vont écouter ce disque et le juger très intéressant. C'est aussi la représentation graphique qui rappelle la structure de la double hélice de l'ADN. Et oui, c'est un assez bon exemple de ce que fait ce jeune Battiato. Il essaye véritablement de faire rimer encyclopédique, mélodique, mystique dans ses premiers albums qui sont devenus cultes, on peut le dire, en France, aux États-Unis. En fait, c'est un album qui n'est tiré qu'à 7000 copies, mais qui reçoit quand même le prix Billboard Europa et qui va avoir, on peut le dire, une influence assez majeure sur la plupart des groupes qui tentent des choses dans ces années 72. On a parler de Pink Floyd. L'un des plus grands admirateurs de son album suivant, qui est tout aussi expérimental, s'appelle tout simplement Frank Zappa, un album qui continue sur la même lancée. On est autant du côté de Aldous Huxley que du philosophe indien Paramahansa Yogananda, qui l'influence toujours. Cet album s'appelle Pollution. Cette litanie électrénico trans. Comment définir ces albums? Fœtus, Pollution et l'album qui le suivent, Sulle corde di Aries, sorti en 73. forme une espèce de triptyque chef-d'œuvre progressif, applaudi, on l'a dit, par Frank Zappa, écouté par les Pink Floyd et Tangerine Dreams, qui sortent à peu près au même moment des albums qui, évidemment, beaucoup plus célèbres, vont beaucoup compter, notamment The Dark Side of the Moon. Cette trilogie, elle est concoctée avec des musiciens, Gianfranco Dada, Gianni Moschetti et Pino Massara, qui travaillent sur les synthés avec lui, qui vont l'accompagner jusqu'en 1974. Ils ne sont pas crédités comme musiciens, mais comme auteurs de musique, exactement avec le même statut que lui, sur ces trois albums. Des albums qui, on peut le dire, font l'objet d'un culte et qui ont été finalement assez prisés par des diggers français, en tout cas des musiciens expérimentaux. On connaît moins, en fait, après ce qu'il va advenir de Franco Battiato, car il connaît une forme de déclic avec un album baptisé justement Click, qui sort en 1974, une forme de reconnaissance, puisque l'un des titres les plus importants de cet album, Propiedad Prohibida, propriété privée en espagnol, va être choisi pour faire le générique du magazine télévisé, du journal télévisé de la Rai 2 et la télévision nationale. Un énorme saut pour cet homme qui traficotait des synthés dans l'intimité de la recherche musicale. Un album, Click, qui déjà propose encore des morceaux extrêmement longs, extrêmement ambitieux, et où commencent à apparaître certaines des problématiques très chères à Battiato, à savoir la relation fondamentale qu'entretiennent Orient et Occident. Ce qui est intéressant vraiment, c'est que Battiato va travailler cette question du lien entre l'Orient et l'Occident, qui lui est posée en fait par sa pratique de la mystique, par sa pratique aussi dans la mystique de la mystique catholique. Il est évidemment le premier à se rappeler que Saint Thomas d'Aquin est un homme tunisien, on peut le rappeler toujours, même berbère. Cette question du lien entre l'Orient et l'Occident et de la manière dont l'Occident se pense seul sera toute sa vie l'une de ses obsessions, d'où le fait qu'on peut toujours évidemment ricaner, voire s'étonner que l'extrême droite se réclame aujourd'hui de lui. Écoutons un extrait de Oriente a Occidente, de l'Orient à l'Occident, l'un des derniers titres de cet album, Click.
Thank you.
pourrait passer des heures sur ce D'Oriente Occidente qui dure plusieurs minutes. Vous entendez comme il fait dialoguer des instruments venus dits d'Orient avec des guitares, des mandolines qui seraient tout autant potentiellement occidentales qu'orientales. Rappelons qu'il est né en Sicile et que la Sicile est l'une des terres où ses influences se rencontrent. Évidemment, ce n'est pas anodin. D'Oriente Occidente. Contrairement à la plupart des musiciens qui, dans ces années 70, fin des années 70, s'intéressent évidemment au lien entre l'Orient, l'Occident, à la grammaire de la musique modale indienne, rappelons évidemment ce que font les Beatles dans ces années-là ou un peu après. Contrairement à eux, lui va continuer à creuser cette ligne, à s'interroger sur ces liens immémoriaux entre l'Orient et l'Occident, entre les deux grands ennemis qui se sont affrontés pendant des siècles, car Battiato écrit, parle du temps long, Venise, la Sérénissime et Istanbul, deux villes qui ont été les capitales de deux empires ennemis, qui se sont livrés des guerres sans répit, de laquelle l'Italie est beaucoup tributaire. Écoutons par exemple son « De Venise à Istanbul » qui paraît beaucoup plus tard. Vous allez entendre deux des choses qui caractérisent Franco Battiato. La première, c'est sa capacité à vraiment écrire comme s'il était dans un roman. Il nous raconte que Venise lui fait toujours penser à Istanbul, évoque Gabriele D'Annunzio, qu'on pourrait qualifier de Proust italien, et se met justement à nous déclamer du Proust dans le texte. Le tout sur une musique tout à fait battiatesque qui évoque cette Mitteleuropa. Il y a des relents de valse viennoise, des relents de musique stambouliote, histoire de nous dire que nous sommes tous êtres humains, le résultat d'une histoire longue, bien moins manichéenne et bien plus passionnante qu'on ne le croit.
Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul. Stessi palazzi addosso al mare, rossi tramonti che si perdono nel nulla. D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura. Mi dia un pacchetto di Camel senza filtro, una Minerva. È una cronaca alla radio, dice che è una punta attacca, verticalizzando l'area di rigore. Ragazzi, non giocate troppo spesso accanto agli ospedali. Socrate parlava spesso delle gioie dell'amore e nel petto degli alunni si affacciava quasi il cuore, tanto che gli offrivano anche il corpo. Fuochi di Ferragosto. Negli anni dell'adolescenza pieni di battesimi e comunioni in sacrestia. Con gli amici a carte, per le feste si indossavano cravatte, per questioni estetiche e sociali. Le donne si sceglievano un marito per corrispondenza. L'etica è una vittima incosciente della storia, i
ieri ho visto due che si tenevano abbracciati in un cinemino di periferia. E penso a come cambia in fretta la morale. Un tempo si uccidevano i cristiani, poi questi ultimi con la scusa delle streghe ammazzavano i pagani. Dell'avvenire splenda ancora sulla terra, facciamo un po' di largo con un'altra guerra.
Socrate parlait souvent des joies de l'amour. Il était une fois où on jouait aux cartes avec les amis et les femmes choisissaient leur mari par courrier. L'éthique est une victime inconsciente de l'histoire. Hier, j'ai vu deux personnes s'embrasser dans un cinéma de banlieue et j'ai pensé à la rapidité avec laquelle la moralité change. Il était une fois des chrétiens tués. Et ces derniers jours, sous prétexte de sorcières, tuèrent les païens. Je vous salue Marie, et pour que le soleil du futur brille encore sur la terre, faisons aujourd'hui de la place pour une autre guerre. Les textes presque hermétiques d'un Franco Battiato en pleine liberté. Alors là, on a évidemment sauté des étapes, vous l'avez entendu, il est passé dans un format musique populaire. Si vous ne comprenez pas les paroles, vous pouvez vous dire qu'il s'agit d'une chanson de rock à peu près comme une autre, et pourtant évidemment les Italiens, eux, captent toutes ces références à la fois ultra littéraires et profondément poétiques. Écoutons le chanteur et ami de Battiato, Herbert Pagani, un Français qui s'est très vite et très tôt intéressé à Battiato, qui a d'ailleurs essayé de traduire ses chansons, les chanter en français, nous raconter justement la complexité de l'écriture de Battiato.
Il y a quelque chose qui est aussi très intéressant, dans les paroles de Franco, c'est que souvent il utilise plusieurs langues. Il lance une phrase en français ou bien en anglais.
Oui, ça aussi, c'est une manière de défi à ce que j'appelais être l'italianité du texte. Le texte doit être populaire, il doit donc avoir des mots faciles. Lui, non seulement il emploie des mots difficiles, non seulement il emploie des imparfaits du subjonctif, non seulement il casse les phrases de façon à former des collages qui quelquefois n'ont pas de verbe, mais il emploie des phrases étrangères. C'est fait sans grande prétention, hein. C'est simplement un jeu de sonorité et quelquefois aussi un jeu de signification.
Heaven you park, my life in the dark, I with me. Do you smile for Arabian style? Miami Beach Boys, children with toys across the universe. Chants, songs, ego, some trip, South, Santo, song. Chants, songs, ego, some trip, South, Santo, song. Quando sono assente di me, da dove vengo, dove vado? Shan, son, ego, son, trip, self, center, song. Shan, son, ego, son, trip, self, center, song. Dalla pupilla viziosa delle nuvole la luna scende i gradini grattacieli per prendermi la vita, per prendermi la vita.
Chanson égocentrique qu'on a Vous sautez des étapes, on est en 85, vous entendez cette chanson qu'il a chantée à la fois en anglais, en espagnol, en français, avec de l'italien, d'autres langues qui s'interceptent. Vous avez compris son goût du collage, vous comprenez maintenant son goût aussi d'autres mots, une italianité qui serait justement plus ouverte, comme il le décrit ironiquement dans cette chanson égocentrique, le terme est français. Il le dit, je suis né dans l'île de Sicile, qui n'est pas loin de l'Afrique, terre étrangère, et je chante pour la maison de disques EMI, Central Park. Ma vie dans le noir, c'est Ich bin klein. Les gens chantent autour du feu de camp, et je me souviens d'un son préhistorique. Je crois que ce que je chante vient du temps des dinosaures. Franco Battiato, que s'est-il passé entre ses premiers albums hyper expérimentaux, justement, et ce genre de chanson de New Wave italienne en forme d'ode à l'altérité, qui ne, évidemment vous l'entendez, hein, qui ne lâche rien sur l'exigence des textes. Eh bien, il s'est passé cet album en 79, L'era del cinghiale bianco, l'ère du sanglier blanc. Un album profondément poétique, mais dans lequel il tournait le dos justement aux expérimentations purement expérimentales. On l'entendait, il l'a fait en grande partie pour des raisons financières. Il fallait bien qu'il mange, ce brave Franco Battiato. Mais cet album va en fait, d'une certaine manière, poser l'espèce d'endroit d'équilibre que va rechercher toute sa vie Battiato. On ne lâche rien donc sur l'exigence, sur la poésie des figures, sur ce qu'on veut dire, sur aussi les grands contrastes qui peuvent exister au sein même d'un album. Mais avant cela, il a sorti un album de musique classique, répétitive et minimale qui s'appelle « L'Égypte avant les sables », un album qui remportera le prix Stockhausen, car oui, entre-temps, Battiato a rencontré le grand compositeur allemand chez lui et il a eu cette forme d'épiphanie. Écoutez-le, le raconter toujours dans le rendez-vous sur France Culture en 2018.
Je dois remercier Karlheinz Stockhausen. Ce compositeur m'a appelé dans les années 70. Son fils avait acheté mes disques, alors il m'a téléphoné pour dire « J'ai besoin de ta voix dans une œuvre ». Et je suis allé chez lui, il vivait à Kürten, près de Cologne. Et alors il a pris la partition qui était vraiment très grande. Comme, oui. Et il m'a dit « Alors c'est ça que tu dois faire ». Et je disais lui « Je ne comprends pas la tradition de la musique classique. » Alors, il m'a donné sa vie pour une soirée et me disait, « Quand tu auras 50 ans, non, tu ne peux pas faire toujours musique pop. » Non, je continue à faire ça. Mais il m'a poussé. Et alors, après, je suis resté avec lui 3-4 jours. Je suis retourné en Italie et j'ai commencé à étudier la musique classique. Et je suis enthousiaste parce que je fais ce que je veux. Si tu ne connais pas l'orchestration et tu ne connais pas la notation traditionnelle, tu dois demander à quelqu'un de faire ça. Mais il fait des choses, par exemple, qui a fait Mozart ou Beethoven, non? Alors, je fais ce que je veux parce que je suis capable de faire l'orchestration à ma manière.
L'Egitto prima delle sabbie, ouais, entre deux albums de New Wave et de rock. Ce petit chef-d'œuvre de musique totalement, on peut le dire, expérimental. C'est une série d'accords répétés à l'infini sur 14 minutes 15, mais qui en fait ont un intervalle et des micro-différences de tempo qui va gagner le prix Stockhausen, le festival international de piano, alors que lui-même n'en joue pas, hein, c'est Giustoppi, son collaborateur, qui joue, mais c'est lui le cerveau derrière tout cela. L'année suivante, c'est l'album qui va le faire exploser auprès du grand public qui paraît, L'Era del Cinghiale Bianco, une explosion importante puisque c'est son premier album ouvertement pop qui lui ouvre donc les portes de la musique de disque italienne EMI, une succession de disques qui vont être très appréciés par la musique, une chanson très rock, très propre, mais au milieu une ballade inoubliable pour nous qui s'appelle Lune indienne, qui vous montre bien à quel point, au-delà de la new wave et des tentations expérimentales, Battiato est un profond grand nostalgique, capable des ballades les plus populaires, les plus douces, les plus enivrantes. Cette chanson-là, Luna Indiana, que vous l'aurez entendue, vous aurez l'impression, et c'est ce qu'il cherche à produire, que vous l'avez écoutée toute votre vie.
Ain't a lane. vacanze estive, a volte un temporale, non ci facevo uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Sera, studenti di Damasco, vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Les hôtels de Tunis sont pleins pour les vacances d'été. Des parfums indescriptibles dans l'air. Étudiants de Damas, mais tout le monde s'habille pareil. J'espère que dans cette époque reviendra bientôt l'ère du sanglier blanc. Alors de quoi s'agit-il? Dans ce son extrêmement efficace, hein, avec ces envolées de cordes dignes à la fois du disco et de la New Wave. Et bien, il est question finalement de la pensée du philosophe ésotérique français René Guénon. Et cette figure du sanglier, il l'emprunte autant à la symbolique celte, où le sanglier est un animal sacré et l'autorité spirituelle chez les Celtes, qu'à la tradition hindoue, où le sanglier, qu'on nomme Varaha, est l'un des 10 avatars du dieu Vishnu. Il est question évidemment d'une mythologie magique dans laquelle on pourrait accéder à la connaissance absolue. Vous l'entendez ici, à la fois il célèbre cette espèce de diversité, du vivant, le fait qu'on puisse aller en Tunisie en vacances et le fait que finalement tout le monde se ressemble, cette fameuse ère de la mondialisation où l'on perd de vue ce que c'est l'essence d'être humain. Tu veux voir l'âge d'or ou est-ce que c'est juste l'ombre de Wall Street? Car oui, Battiato, qui pour le moment se contentait d'une certaine manière, qu'il soit dans l'expérimental ou dans cette pop, qu'il conserve ou il conserve un goût d'avant-garde, et bien finalement d'essayer d'emmener les gens vers une vision de la conscience humaine qui serait moins tributaire de la mondialisation, du capitalisme, il va devenir concrètement, et c'est un tournant, beaucoup plus critique dans son album suivant, Up Patriots to Arm.
نعاول كل يوم نشوفنا الكل مشتاتو يشوفتو والكل الكل في العالم عنده يشتغلوا يعملوا ونحن احنا اليوم نشتنب مش نشرب مش نهنا مش نقول عنا ما
stupidi che i fiumi sono in piena potete stare a galla. E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità. Se le banchine sono piene di gente che sta male. Oh, Patriot Twarms, oh, gauchez-vous. La musica contemporanea mi butta giù.
Patriots to Arm, engagez-vous en français dans le texte. C'est une chanson qui s'est ouverte, vous l'avez entendu sur une petite intro collage dont évidemment Batiato a le secret, des vers en arabe qui nous disent « Chaque jour nous regardons les choses insignifiantes, le monde autour de nous, le monde qui vit d'espérance et cette vie nous ne la vivons pas » dans ce texte. Patriots to Arm qui reprend un message de l'armée anglaise qui invitait à s'engager. Batiato, en fait, justement, va se mettre à décrier la production culturelle qui l'entoure. La musique contemporaine nous met à terre et justement, à la fois de combattre ses collègues qui font de la musique qui n'a aucun sens et les élites culturelles qui produisent une musique ou une culture si hermétique qu'elle ne sert plus à rien, elle n'est plus capable d'aider les hommes à s'élever. Franco Battiato qui va se lancer et continuer ce long combat pour une musique, un art populaire qui a du sens. L'épisode 2, c'est la semaine prochaine. Restez avec nous dans la série musicale. Cet épisode a été préparé avec Laura Dutèche-Pérez, brillamment réalisé par Thomas Jost. Et à la technique aujourd'hui, c'était Nicolas Delmas. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de la série musicale. Un grand merci à Martine Amagri de m'avoir fait découvrir Franco Battiato. Et un petit clin d'œil à Daniel Sanchez. À la semaine prochaine.